France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est attendu cet après-midi dans les vallées de la Roya et de la Vésubie, 4 jours après les inondations qui ont dévasté une partie des Alpes-Maritimes. Le dernier bilan est d'au moins 4 morts, 8 disparus et des dégâts colossaux. Une dizaine de ponts sont détruits, selon le président du conseil départemental. L'État sera par ailleurs au rendez-vous. Voilà ce qu'a promis hier à l'Assemblée nationale le Premier ministre Jean Castex après ces inondations. L'Assemblée nationale, où 2 textes ont été voté hier. Vote solennel d'abord pour adopter le projet de loi qui réautorise temporairement les néonicotinoïdes, insecticides tueurs d'abeilles, mais qui protège également les betteraves de la jaunisse. Une régression écologique majeure, dénonce Greenpeace. 32 députés de la majorité La République En Marche ont voté contre ce texte. 36 se sont abstenus, c'est un record. Les députés ont aussi validé le texte sur la restitution des biens culturels au Sénégal et au Bénin. Un geste qui veut marquer un renouveau des relations franco-africaines, mais qui est jugé trop limité par certains et hasardeux par d'autres. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. 9% des tests de dépistage au Covid-19 sont désormais positifs en France. Ce taux continue de progresser rapidement, selon le ministère de la Santé. Le nombre de malades en réanimation poursuit également sa lente hausse. Ils sont près de 1420 dans toute la France. 40% des lits de réanimation en Île-de-France sont actuellement occupés par des cas de Covid-19. En Allemagne, les bars et restaurants de Berlin devront fermer à 23h à partir de ce week-end à cause du nouveau coronavirus. La Belgique également durcit les règles. Bars et cafés fermeront là aussi à 23h dans tout le pays dès vendredi. Quant aux États-Unis, à New York, les commerces non essentiels vont fermer dans les prochains jours dans certains quartiers, là où la propagation de Covid-19 a repris.
Sur France Culture, au plus près du réel, la série documentaire Perrine Kervran.
Racisme structurel, politique raciste, racisme d'État. Et si au lieu de brandir des mots, on regardait ça de plus près, au ras des vies qui ont vécu ces décisions d'État. Du fichier juif mis en place par Vichy, en passant par les stérilisations forcées des femmes et les déplacements arbitraires d'enfants réunionnais, ou la question des statistiques ethniques, comment cohabitent le politique et la notion de race en France? Eh bien, autant le dire tout de suite, ce n'est pas évident.
LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr. France Culture, faites la science. La pandémie a mis les questions de santé et de recherche scientifique au centre du débat public. Elle a redistribué la place et la parole des chercheurs, des médias, du pouvoir médical et de la décision politique. La crise sanitaire renforce-t-elle la place de la science? Comment influe-t-elle sur la confiance des citoyens? À l'occasion de la fête de la science, journée spéciale sur France Culture, ce mercredi 7 octobre. Ce que le Covid fait à la science, entretien, débat, reportage, chronique, dès 6h45 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture et à l'occasion justement de cette journée spéciale sur la science et l'incidence du Covid-19, à cette occasion, sachez que Bruno David sera l'invité de Guillaume Erner à partir de 7h40, président du Muséum d'Histoire Naturelle. Bruno David, que nous retrouvons dès 7h06 pour Le Monde Vivant, qui est consacré ce matin aux sangliers.
Armorique, potion magique. Par Toutatis, Obélix n'est sûrement pas loin. Les sangliers si nécessaires à son ordinaire quotidien non plus. Ce sanglier, mammifère omnivore, appartient à la vaste famille des suidés, où l'on retrouve ses cousins phacochères, potamochères et babiroussa. Mais j'oubliais une espèce, le cochon. Oui, le cochon est une espèce, sus domesticus, depuis que la nomenclature zoologique a opté pour ne pas confondre les formes domestiques et les formes sauvages. Mais nos porcs restent interféconds avec le sanglier, sus scrofa. Ils l'ont toujours été. Ils peuvent prétendre à une descendance commune fertile, parfois appelée sanglochon ou cochonglier. Tout cela fait pencher en faveur d'une seule espèce. Certes, fort variable, d'où les deux noms qui renvoient plutôt à des sous-espèces. Dire à un enfant qui a renversé son assiette « espèce de cochon » revient-il alors à le traiter de sanglier ? Qu'en est-il vraiment? C'est une vieille histoire, Remontons un peu le temps. En effet, la domestication à l'origine du porc s'est produite en plusieurs foyers indépendants à différentes époques et les lignées de nos porcs domestiques actuels sont très imbriquées. Les domestications les plus anciennes remontent au 9e millénaire avant Jésus-Christ en Turquie. Leur arrivée en Europe de l'Ouest est confirmée vers 5500 avant Jésus-Christ, avant que les Européens ne commencent à domestiquer aussi leurs sangliers locaux. Quel mélange ! À l'époque d'Obélix, la frontière entre le domestique et le sauvage était mieux tranchée, mais avec pas mal de croisements sauvages-domestiques. La cloison entre domestique et sauvage est biologiquement poreuse. En revanche, la barrière symbolique reste imperméable. Pour les Celtes, les Germains et les Romains, le porc sauvage est symbole de force et de courage. En effet, le sanglier traqué se défend, ce qui rend la chasse au sanglier périlleuse et donc glorieuse. Être tué par un sanglier à la chasse, comme le fut peut-être Philippe le Bel en novembre 1314, correspond à une mort héroïque, mais par un cochon. Pourtant, le cochon régicide existe bien dans notre histoire de France. En octobre 1131, un cochon errant dans les rues de Paris provoqua la chute de cheval du prince Philippe, fils aîné de Louis VI le Gros. Il en mourut. Philippe n'était pas seulement prince, il était une sorte de vice-roi, puisque selon l'usage en vigueur chez les premiers Capétiens, il avait été couronné roi 2 ans auparavant du vivant de son père. Être tué par un cochon sera qualifié par les chroniqueurs jusqu'au XIVe siècle de mort honteuse, ignoble, misérable, indigne d'un roi. Mais être victime d'un sanglier, quelle gloire royale ! D'ailleurs, une légende celtique fort ancienne prétend qu'en rémission de ses péchés, un roi avait été changé en un sanglier blanc réputé immortel. Finalement, les scientifiques ont eu bien raison de leur attribuer des noms distincts.
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Et vous le savez, tous les mercredis, notre coup de cœur pour un film qui sort en salle. Et aujourd'hui, on va parler d'un drame familial, un film de procès, mais qui ne se passe pas dans une cour de justice, comme le voudrait le genre, mais dans un show de télé-réalité. Une jeune femme, pour sauver sa vie, doit être convaincante devant des millions de téléspectateurs. Cela se passe en Iran. Ce n'est pas une satire de la société d'aujourd'hui, mais une fiction adaptée de faits réels. Yalda, la nuit du pardon, sort donc au cinéma aujourd'hui, et je reçois son réalisateur, Masoud Barchi.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
امیدوارم که به هر حال رضایت بگیریم ان شاء الله.
ان شاء الله چرا آقای آیت دیگه حتما دیگه تو رو خودم امیدمون به شما است آقای.
3 2 1 استودیو آنتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام.
درست اون ساختمونی که میبینین منزل مردی وجود داره که مهمان
سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید.
Salam, Masoud Barchi. Bonjour.
Salam, bonjour.
L'histoire donc de votre film Yalda, la nuit du pardon, se passe à Téhéran de nos jours. Une jeune fille, Mariam, tue accidentellement son mari Nasser, qui doit avoir l'âge de son père, au moins de son père, et elle est condamnée à mort. Une seule personne pourrait la sauver, c'est Mona, la fille du défunt. Encore faut-il que Mona accepte de pardonner Mariam en direct devant des millions de spectateurs dans une émission de télé-réalité. Et en Iran, cette émission a bel et bien existé.
Oui, en fait, c'est l'émission qui m'a inspiré. Parce que j'avais la première version de scénario sur l'histoire de cette femme, un peu écrite d'une façon classique, avec des flashbacks, avec des scènes de mariage, et après le conflit entre le couple, et après la morte. Mais un ami de moi qui savait que je travaille sur le thème de pardon, il m'a dit « Est-ce que t'as vu cette émission ?» J'ai dit « Non, je regarde pas la télé. » Et quand je l'ai vu, j'ai décidé de raconter toute mon histoire à travers, en fait, au sein d'un épisode de cette émission.
Alors ce sont des vrais condamnés qui passent dans ce talk show, dans cette émission de télé-réalité, et qui essayent de sauver leur vie en obtenant le pardon d'une personne de la famille de la victime, c'est bien cela?
En fait, le thème principal de l'émission était le pardon, mais avec des histoires et des invités très variés. C'était à la base une émission pour les 30 nuits de mois de Ramadan, et pas nécessairement sur les cas de morte. En fait, sur le pardon, mais avec des histoires et des invités très variés. Pourtant, les épisodes les plus populaires, c'était avec les cas de morte. Et après, j'ai
mais
un peu...
Mais est-ce qu'une télé-réalité pour remettre en cause un jugement d'une cour?
En fait, j'ai un peu dramatisé, mais l'épisode que j'ai vu m'a bouleversé. C'était un épisode dans lequel ils avaient invité un père qui avait... perdu son fils, et pendant une demi-heure, le présentateur a insisté qu'il pardonne, et à la fin, il a dit non, je pardonne pas, je veux l'exécution. Mais il y avait beaucoup d'SMS, des millions d'SMS ce soir-là, envoyés à la télé, qui critiquaient vraiment le présentateur en disant que monsieur, il avait raison de vouloir exécuter le tueur de son fils. Et du coup, l'émission qui avait le but de sauver est devenue contre son but. Et c'est là que j'ai vu que j'ai décidé en fait de raconter l'histoire avec cette émission parce que j'ai vu que c'est pas possible.
Mais c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a une incidence de cette télé-réalité sur le fonctionnement de la justice? Par exemple, si dans cet exemple que vous venez de nous donner, Massoud Barchi, si la personne avait accepté de pardonner, est-ce que la sentence de fait est élevée?
Oui, en fait, c'est une exception incroyable dans la loi qui existe en Iran, dans les cas non intentionnels de mort, accident ou bien les crimes de passion entre une famille. Et la loi permet à la famille de victime de gracier le criminel. Mais ça, il y a une condition que le criminel aussi doit payer le prix du sang. Et pour moi, c'était incroyable de voir ça un peu à la télé, dans une émission en direct.
Et c'est quoi le prix du sang, du coup?
Le prix du sang, c'est une somme considérable, en fait, que le criminel doit payer pour la mort à la famille de victime. Et souvent, comme ce genre d'accident arrive dans les couches défavorisées de la société, il n'arrive pas à donner. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'ONG iraniennes, comme on voit dans le film, beaucoup d'activistes, beaucoup de célébrités, les acteurs, les sportifs aussi, qui sont vraiment actifs d'aller parler avec les familles de victimes et d'essayer de les convaincre de pardonner. Et puis de se mobilise aussi pour récolter cette somme, en fait. Et c'est incroyable qu'il y a des gens anonymes qui payent, en fait. Mais ce qui est vraiment, pour moi, ce qui était vraiment important, c'est le fait que cette émission, ils ont arrêté de la produire juste après mon film.
Alors que votre film n'est pas une critique de cette émission.
Exactement, j'ai jamais critiqué les bonnes intentions. Parce que évidemment, ils veulent sauver, en fait, avec ce genre d'émission, ils voulaient sauver la vie de quelqu'un. Mais la façon qu'ils mettent en scène tout cet spectacle, c'était insupportable.
Oui, quand la justice devient spectacle.
Exactement. Pour moi, c'était pas acceptable, et pour beaucoup d'autres comme moi. Mais après, c'était une émission populaire. Pour moi, c'était une grande question de savoir qui regarde ce genre d'émission. Mais après, il y avait des millions de gens qui regardaient.
Et donc, vous prenez un exemple donc de cette jeune fille qui va tuer accidentellement son mari et qui va être confrontée à cette télé-réalité parce que sa mère voudrait la sauver et voudrait obtenir le pardon de la fille du défunt, du mari, qui se trouve à être une amie de Mariam Mona. Et vous filmez cette histoire à travers donc cette émission de télé-réalité, en respectant d'ailleurs scrupuleusement tous les ressorts dramatiques de la télé-réalité.
Oui, en fait, mon premier contact avec télé-réalité, c'était en Italie. Je suis allé pour faire les études de cinéma dans les années 2000. Et à ma grande déception, j'ai vu que dans les studios de Cinecittà, là où Fellini et ses collègues filmaient ses grands films.
Ouais, c'est plutôt les télé-réalités maintenant qu'on tourne.
Ils faisaient que des télé-réalités. C'était les chaînes télé de Berlusconi. Mm-hmm. Et c'est là que, en fait, j'ai découvert c'est quoi ce phénomène atroce, en fait. Mais en Iran, dans mon pays, quand j'ai trouvé ce genre d'émission, je me suis dit, c'est pas possible.
Donc c'est tout à la fois un film de procès, parce qu'il s'agit quand même de refaire le procès de Mariam, et tout se déroule pendant cette émission de télé-réalité, qui plus est, programmé le soir de la fête de Yalda. Alors, cette fête, c'est la fête de la nuit la plus longue de l'année. C'est le début de l'hiver. C'est le 21 décembre. C'est bien ça.
C'est exactement ça. C'est une fête zoroastrienne, très importante pour les Iraniens. C'est une fête pré-islamique qui date de 3000 ans. Et c'est une fête que vous voyez dans le film, les familles se réunissent, ils récitent le poème de Hafez, le grand poète perse. Et ils mangent les fruits rouges, notamment pastèque et grenade. Et Yalda, le mot Yalda, c'est un mot perse antique qui vous dit la grande naissance. Pourquoi? Parce qu'après cette longue nuit, il y a des nuits plus courtes et après il y a l'arrivée de printemps. Et pour moi, comme le film joue sur le contraste entre beaucoup de choses, et, notamment entre les classes, il y a la guerre des classes sociales.
Bien sûr.
Il y a deux personnages principaux qui sont opposés l'un contre l'autre. Mariam qui vient d'une couche défavorisée et Mona qui est éduquée,
qui est riche.
Une femme très moderne, mais avec des intérêts financiers, évidemment. Et le contraste entre la nature tragique de cette mission et la fête de Yalda aussi, c'était très important pour moi.
Alors, ce qui est d'autant plus important, c'est que dans ce film, Yalda, la nuit du pardon, comme le procès se déroule dans une télé-réalité qui elle-même est diffusée en direct le soir d'une fête, il y a aussi l'intervention des producteurs de cette émission de télé-réalité qui ne veulent pas que ça vire vers le drame parce qu'il faut garder l'audience. Est-ce que tout cela est documenté, Massaoud Barchi?
Oui, comme je viens de cinéma documentaire, une fois que j'ai écrit l'histoire, je suis allé visiter les vrais plateaux de télé. En fait, dans mon scénario, il y avait plutôt les hommes qui géraient la régie. Et en visitant les vrais studios, les vraies émissions en direct à la télé, j'ai vu qu'il y a majoritairement des femmes qui travaillent. Et c'est pour ça que j'ai changé, vous voyez, au moins 10 personnages féminins dans le film. Et d'ailleurs, c'est un portrait féminin de la société iranienne aussi. Et j'ai vu qu'il y a notamment quelqu'un de l'antenne qui contrôle, qui est là juste pour contenu de chaque émission. Et dans le film, on voit que entre elle et le producteur, il y a une sorte de conflit parce qu'elle ne veut pas que dans cette nuit de fête, l'émission finisse avec une fin tragique.
Toute l'histoire, c'est comment adapter à la télé-réalité une décision de justice.
Oui, c'est un peu la question de justice. C'est assez compliqué et assez contradictoire, je peux dire. Quand j'ai fait la recherche surtout pour les détails juridiques du scénario, en consultant avec beaucoup d'avocats, j'ai compris que les complexes sont beaucoup plus profondes et il y a vraiment des paradoxes. Comment expliquer que le juge qui signe un verdict d'exécution, c'est à lui, c'est sa responsabilité d'aller tout de suite après la signature chez la famille de victime et demander le pardon?
Ce n'est pas à la télé de le faire, ce n'est pas une émission de télé-réalité.
Non, ça c'est le système juridique en fait. Et comment expliquer que le Parlement iranien, il y a 3 ans, ils ont arrêté les 6000 exécutions, les prisonniers qui sont condamnés à mort à cause de la drogue? Évidemment, la drogue, ils sont obligés un peu d'être durs contre la drogue parce que l'Iran s'est situé entre Afghanistan et Turquie. Et s'ils sont pas durs, la drogue se trouve en Europe. Mais 6000 prisonniers condamnés à mort et le Parlement qui intervient pour arrêter ces exécutions, c'est quand même quelque chose qui explique comment c'est compliqué et comment la société est consciente, le fait qu'il y a énormément de gens qui aident d'une façon anonyme à récolter cet argent pour sauver la vie d'un condamné. Et d'ailleurs, il faut dire que le film est sorti aussi et on a décidé de donner tous les revenus de la sortie iranienne. Il est sorti au mois de juin. Et on a décidé de donner toutes les revenus de la sortie iranienne pour sauver la vie de deux condamnés à mort, et on a réussi.
Oui, mais Massoud Bakshi, quand vous faites ça, c'est parce que vous êtes fondamentalement contre la peine de mort, ou c'est parce que vous pensez que ces personnes n'ont pas bénéficié d'un jugement équitable?
En Iran aussi, il y avait des critiques qui disaient ce film, ça parle de la peine de mort. Mais je voulais toujours dire que, en fait, c'est un film sur le pardon. Plutôt. Et pour moi, personnellement, c'était le thème central, la question centrale du film, c'est le pardon. Moi, j'ai passé un temps dur avant de faire ce film et j'ai pensé constamment à la question du pardon. Je pense que les gens en Iran, ils ont besoin de comprendre la notion de pardon. Les familles de victimes et les criminels, il y a une sorte de bataille en ce moment pour valoriser des valeurs vraiment humaines de la société. Et le plus important, c'est le pardon. Quand on voit qu'il y a des familles qui pardonnent, en fait, qui ont perdu un membre de leur famille, et ils pardonnent sans vouloir toucher l'argent ou le prix de sang. Et aussi, il y a des familles qui demandent trois fois plus. En fait, la personne qu'on a sauvée, la famille de victime, pour accorder le pardon, ils ont demandé trois fois plus de l'argent. Et grâce à un chanteur très connu de pop iranien qui a payé la moitié de cette somme, ce prisonnier pouvait être sauvé.
C'est donc un film sur la loi du talion et le pardon, Massoud Bakshi, mais on apprend aussi quelque chose de tout à fait incroyable, parce que Mariam, la jeune fille accusée d'avoir tué son mari, très âgé, était dans une drôle de relation avec lui. Elle était mariée temporairement avec cet homme. Comment se fait-il ?
Oui, il y a le mariage temporaire. En fait, c'est un mariage accepté par la loi et la religion. C'est un contrat de mariage avec durée limitée, dans lequel, en fait, l'épouse peut réclamer ses droits dès le début, pour réclamer aussi une somme d'argent. Et s'il y a un enfant issu de ce mariage, c'est l'époux qui doit accepter la responsabilité, ce qui donne en fait à cette histoire. Mais justement, quand je faisais la recherche, j'ai appris qu'une loi est passée dans le Parlement iranien il n'y a même pas 8 ans ou 9 ans pour légaliser les enfants issus d'un mariage temporaire quand il n'y a pas le père. Quand le père il est parti ou l'épouse elle n'a pas accès à trouver le mari, qui permettent en fait aux femmes de porter leur nom.
Aux enfants de porter le nom de leur mère.
Oui. Avant, ces enfants, ils étaient considérés comme bâtards. D'où vient la fin de ce film? Et ça, c'était quand même choquant pour moi. Comment cette loi est passée si récemment seulement?
Yelda, la nuit du pardon de Massoud Bakshi sort aujourd'hui au cinéma. Vous restez avec nous.
گناه یک شبم با تو به تو وانش نمیارزید چه ساده من تو رو باختم چه آسون قلب تو لرزید به یک نیم بوسه پنهون گل لبهای تو پشمون تو دستام و رها کردی تموم دل خوشی هم
culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et aujourd'hui sur France Culture, à l'occasion de la fête de la science, tous nos programmes tourneront autour de la question centrale. Qu'est-ce que le Covid-19 fait à la science ? Massoud Bakshi, vous êtes iranien, vous vivez toujours à Téhéran, hein ?
Oui, je suis basé à Téhéran, mais je viens souvent en France et je coproduis mes films avec la France.
Comme ce film, là, d'ailleurs, qui sort aujourd'hui, Yalda, la nuit du pardon. L'Iran est un pays touché par le Covid. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires iraniennes, il y a plus de 432 000 cas qui ont été confirmés et plus de 24 000 malades sont décédés. La République islamique d'Iran a pris des mesures strictes, c'est-à-dire ils ont même interdit les fêtes religieuse, par exemple.
Oui, en fait, ils ont, dès le début de l'arrivée de ce petit virus qui a bouleversé le monde, ils ont pris les mesures, les procédures dures pour contrôler cette maladie. Mais pourtant, on était vraiment touchés. Il y avait, là maintenant, ils parlent de troisième vague, parce que la deuxième vague est arrivée avec l'arrivée d'été, parce qu'on utilise beaucoup de clim. Et à cause de chaleur, et avec la deuxième vague de Covid, il y avait beaucoup de morts et beaucoup de malades, oui. Mais c'est surtout le cinéma, en fait, comme je voulais sortir après beaucoup d'années que j'ai mis pour finir mon film, je voulais absolument sortir Yalda. Il est sorti juste après le confinement, dans un temps très très dur. Parce qu'aucun producteur n'osait pas sortir
aucun films. Distributeur n'osait sortir des films. Mais l'idée, c'est quand même que la parole scientifique l'a emporté sur les religieux dans votre pays, l'Iran.
Ah oui, ils ont accepté parce que, en fait, il y avait des foules dans ces cérémonies et comme ils ont vu que c'est dangereux, ils ont accepté. Oui, il y avait toujours cette coexistence, on peut dire, entre la science et la religion en Iran. Et ça fait partie aussi de cette coexistence entre, plus générale, de la modernité et la tradition. D'où vient l'histoire de Yalda, un peu, vous voyez les images début de film qui expliquent modernité et les images qu'on connaît pas nécessairement présentées dans les médias occidentaux. On connaît pas ces images d'Iran, mais aussi la tradition qui est omniprésente. Même aujourd'hui, c'est un temps très, très très dur. Ils ont mis en place des plateformes pour sortir les films online, mais il y a beaucoup de cinéastes. Moi-même, en fait, le film que j'ai fait, c'est un film pour le cinéma. Je voulais pas le sortir online. Ils ont décidé de payer la moitié de billets de chaque billet de cinéma pour encourager un peu les salles. Pour regarder les films et sortir les films. Ça veut dire que les spectateurs, ils payent la moitié de billets, la moitié de prix. C'est le ministère de la Culture qui paye au patron des salles. Et ça, c'était une subvention pour un peu garder les films. Et pourtant, je peux dire que c'est très, très dur en ce moment pour un pays qui produit presque 100 films par an. Et du coup, les tournages arrêtés, les films qui attendent en fait un temps un peu pas précis pour être sortis.
Ouais, on est tous
sortis.
Dans l'incertitude. Merci beaucoup, Massoud Bakshi. Je rappelle que votre film Yalda, la nuit du pardon sort au cinéma aujourd'hui et qu'on peut toujours aller au cinéma, bien sûr, en prenant toutes nos précautions. Et qu'aujourd'hui, sur France Culture, c'est une journée spéciale. Qu'est-ce que le Covid-19 fait à la science ? Tout à l'heure, on retrouvera notre nouveau chroniqueur du monde vivant, Bruno David, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, avec Guillaume Erner. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Les chemins de la philosophie revisitent les classiques. Bibliothèque Rose, Bibliothèque Bleue, Adèle Van Rett.
Et si ces livres que nous avons lus enfants étaient en fait destinés aux adultes ? Pourquoi la petite Sophie de la Comtesse de Ségur est-elle malheureuse ? Le petit Nicolas a-t-il bien vieilli ? Peut-on tout dire aux enfants aux côtés de Roald Dahl ? Et enfin, Marcel Pagnol, nos parents sont-ils toujours nos héros ?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture, partenaire du livre « Jésus, l'histoire d'une parole ».
Comment raconter le message de Jésus en résonance avec le monde d'aujourd'hui? Une œuvre originale et poétique proposée par Frédéric Boyer, auteur de romans et d'essais, mais aussi traducteur de grands textes anciens, et par Serge Bloch, illustrateur mondialement reconnu. Ils seront les invités du Rayon BD ce dimanche à 16h. Jésus, l'histoire d'une parole, chez Bayard Éditions, en librairie actuellement. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Emmanuel Macron à la rencontre des sinistrés dans les Alpes-Maritimes. Le président y sera cet après-midi et les attentes sur place sont grandes. État des lieux avec le président du conseil départemental dans un instant. Nous entendrons ensuite les arguments d'un historien qui s'oppose au projet de loi sur la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Le texte, dit-il, est trop restrictif. Pour la première fois en France, une action de groupe a été lancée pour dénoncer les différences de salaire hommes-femmes à la caisse d'épargne. Nous vous expliquerons pourquoi dans cette édition. Et puis Sébastien Chado-Pétronin est à Bamako ce matin au Mali dans l'espoir d'une éventuelle libération de sa mère Sophie Pétronin. Elle est la dernière otage française dans le monde. Emmanuel Macron est donc dans le sud-est, est attendu en tout cas dans le sud-est aujourd'hui. Avant cela, il présidera un conseil de défense et un conseil de ministres où seront présentés les projets de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021 et le congé paternité qui sera allongé. Emmanuel Macron attendu à Tende à 15h ensuite, puis à Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Vésubie. Une visite attendue, je vous le disais, par les habitants et par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Team Charles-Ange Ginesi, qui compte sur les fonds de l'État pour la reconstruction.
C'est comme si un bombardement était tombé sur les Alpes-Maritimes. Le département des Alpes-Maritimes compte 35 km de routes à refaire. On a une dizaine de ponts qui ont été emportés. C'est toute une histoire du département des Alpes-Maritimes qui, en quelques heures, entre 16h et 23h, avec plus de 500 mm d'eau qui sont tombés pendant ce laps de temps, a vu son patrimoine historique s'échapper, partir dans les flux, dans la Roya, dans la Vésubie, dans le Var, autant dans l'Estéron. Quand je regarde le bilan de ce qui a été détruit, c'est colossal, mais ça représente 10, 15, 20% de ce qui est utilisable dans notre montagne, de ces villages. Autant dire que les dégâts sont considérables.
C'était Charles-Ange Ginesi, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, avec Julien Langlais. À l'Assemblée nationale, les députés ont validé hier soir la restitution des biens culturels au Sénégal et au Bénin. Il s'agit en fait de rendre au Bénin 26 pièces issues du trésor de Béhanzin, des pièces provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Quant au Sénégal, le texte lui permettra de récupérer un sabre et un fourreau attribués à une figure majeure de l'histoire militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle. À ce propos, invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, Julien Volper, historien de l'art spécialiste de l'Afrique, conteste cette loi. Il s'en est expliqué.
Moi, ce que je vois surtout avec un projet de loi qu'on présente comme un projet de loi d'exception, c'est d'abord de réfléchir à ce terme d'exception. Pour faire un projet de loi d'exception, il faut montrer en quoi le cas concerné est exceptionnel. Est-ce que c'est une exception par rapport au fait colonial? Mais dans ces cas-là, la colonisation ne concerne pas que des questions africaines. J'allais dire, la France a eu des colonies en d'autres parties du monde, notamment je pense à l'Asie, je pense à l'Indochine, qui concerne donc des pays actuels comme sont le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. Est-ce que l'on parle de la question d'une exception qui est celle d'un butin de guerre? Là encore, qu'on me l'explique, le butin de guerre n'est pas une spécificité du fait colonial. C'est quelque chose qui se pratiquait, qui était légal, j'insiste là-dessus d'ailleurs, avant les conventions de l'Haye de 1899. C'est une pratique régulière qu'on ne réserve pas simplement, comme on l'entend souvent de dire, c'est une spécificité qu'on a réservée à l'Afrique. Non, ça se fait même entre États européens. Pour rappel, les troupes françaises, qu'elles soient révolutionnaires ou napoléoniennes, ayant agi en territoire italien ou belge actuel, ont ramené des œuvres. Donc ce n'est pas une exception non plus dans ce sens-là.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Cet entretien avec Julien Volper, historien de l'art, est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Les députés de l'Assemblée, eux, ont validé donc ce projet de loi unanimement hier soir. En revanche, à l'Assemblée, hier, le vote a été plus disputé concernant la réintroduction des néonicotinoïdes pour les productions de betteraves. 313 voix pour, 158 contre et 56 abstentions. chez les députés La République En Marche pour la majorité. 32 députés ont voté contre ce texte, 36 se sont abstenus, c'est un record inattendu. La Caisse d'épargne d'Île-de-France est assignée en justice cet après-midi par la CGT pour discrimination envers les femmes. Pour la première fois en France, une action de groupe a été lancée pour dénoncer des différences de rémunération au sein de cette banque coopérative. En effet, d'après le bilan social 2018 de cette société, les employés masculins gagnent en moyenne 18% de plus que leurs collègues féminines. À compétences et à postes identiques, l'écart de rémunération peut représenter plusieurs centaines d'euros du salaire mensuel. Exemple avec Cécilia Arbonnat.
Ils ont été embauchés à la Caisse d'épargne en même temps, en 1993. Bernard et sa collègue Aline ont débuté tous les deux au standard.
On s'est aperçu il y a peu en fait qu'on avait une différence de salaire à hauteur de 300 euros base temps plein. C'est assez choquant, à la mesure où on a réussi à identifier les périodes où la différence se fait, soit au congé maternité, soit au congé parental que Aline a pris à l'époque.
Devenu délégué syndical CGT, Bernard Dantec s'est aperçu qu'il y avait d'autres femmes discriminées dans son entreprise à tous les étages.
On a des conseillers commerciaux, nous avons des conseillers financiers, nous avons également une responsable adjointe d'agence et une directrice d'agence.
8 salariés femmes sont à l'origine de l'action de groupe lancée en juin 2019 contre la Caisse d'épargne. Catherine Vinet-Larry est à la retraite depuis 2016, mais elle se bat pour celles qui sont encore en activité.
Le fait d'être une femme, effectivement, je pense que ça m'a bloquée, puisque à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu un appel d'offres pour devenir responsable au niveau des agences. Je lui demandais à ce qu'on ait la capacité en droit minimum, ce que j'avais. Ils ont choisi un homme plutôt que moi et l'homme n'avait pas du tout cette formation.
Un rassemblement en présence d'associations féministes est prévu cet après-midi devant le siège de la Caisse d'épargne d'Île-de-France dans le 13e arrondissement de la capitale.
Cécilia Arbonnat pour France Culture. Cela semble être un développement significatif pour l'éventuelle libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde. Plus d'une centaine de djihadistes ont été libérés ces derniers jours au Mali. En échange, l'opposant Soumaïla Cissé et la française Sophie Pétronin, détenues tous les deux par des islamistes armés, pourraient être libérés. Aucune confirmation officielle pour le moment. Mais sachez que le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Chadeau Pétronin, a pris un vol à destination de Bamako hier, dans la capitale malienne donc. Sur place, notre correspondant Kaourou Magassa l'a rencontré hier soir.
On est passé un peu par tous les stades. On a beaucoup galéré, on a beaucoup souffert. Il y a eu aussi des moments de joie, il y a eu des fabuleuses rencontres, mais c'était quand même un sacré parcours du combattant. Et puis je pense que pour ma famille, ça serait bien que ça s'arrête. Alors on croise les doigts parce qu'on ne sait toujours pas... On ne sait toujours pas si ça va s'arrêter. Il faut qu'on reste prudent. D'être ici, c'est ma place. S'il y a une petite chance qu'elle puisse sortir de cet enfer, il faut que je m'avance vers elle au maximum. Si je pouvais m'avancer encore plus, je le ferais. J'aime ma mère, puis je trouve qu'elle a fait des très belles choses. Donc ça ne peut pas mal se terminer. Il faut que tout ça aille vers la lumière. Je sais pas, mon cœur me dit ça.
C'était donc Sébastien Chadeau Pétronin qui est en ce moment à Bamako. Ce procès historique marquera un tournant dans la lutte antifasciste en Europe. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès fleuve contre le parti néo-nazi grec Aube Dorée. Le tout après 400 audiences, 5 ans et demi de procédure. À Berlin, autre procès qui s'ouvre cette fois aujourd'hui. Celui de Vadim Krasikov. Ce russe de 55 ans est accusé d'avoir assassiné en plein centre dans la capitale allemande un opposant tchétchène à la demande de Moscou. Ce cas rappelle évidemment l'affaire Skripal qui avait choqué en Allemagne. Rappel des faits avec notre correspondante Nathalie Versieux.
Le meurtre a eu lieu en plein jour et au cœur du Tiergarten, le plus grand parc du centre de Berlin. Un homme à vélo s'est alors approché de Tornike Kaftarashvili et l'a abattu à bout portant. La victime, âgée de 40 ans, était un Tchétchène de Géorgie. Le parquet est convaincu que Moscou a commandité le meurtre de cet ancien séparatiste tchétchène qui avait combattu les forces russes entre 2000 et 2004 et vivait avec sa famille en Allemagne depuis depuis 2016. L'affaire sera jugée par une cour spécialisée dans les affaires touchant à la sécurité de l'État. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, cette affaire serait un spectaculaire cas de terrorisme d'État sur le sol allemand, estime le magazine Der Spiegel, selon lequel Krasikov aurait reçu un entraînement des services secrets russes. Le meurtre de Kaf Tarashvili rappelle l'empoisonnement de l'agent double Skripal à Londres ou celui d'Alexei Navalny soigné depuis août en Allemagne. Berlin avait expulsé deux diplomates russes fin 2019 et menacé Moscou de sanctions pour protester contre le manque de coopération des autorités russes pour élucider le meurtre de l'opposant tchétchène.
Nathalie Versieux. Peu de changements ce mercredi côté ciel en France métropolitaine, si ce n'est que le sud-est va bénéficier d'un grand soleil. Ailleurs, le temps va osciller entre pluie fine et éclaircie. Ce matin, il fait 12 degrés à Paris, Rennes et Lyon, 19 à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40 sur France Culture. Alors du dernier débat à la présidentielle américaine qui s'est tenu mercredi dernier, on a beaucoup retenu Jacques l'apostrophe de Joe Biden, excédé par les interruptions incessantes de Donald Trump. Will you shut up man? C'est l'occasion d'une réflexion sur les limites du pouvoir.
Oui, et nombreux sont les commentaires qui ont fait de cette réplique le moment de vérité pour tous ceux qui s'attendaient à un débat et non à une altercation. Sur le site AOC, Olivier Christin explique que les réactions renvoient au deuil de toute forme de déférence et même de simple courtoisie à l'égard du président en titre, qu'aucun privilège n'exempte de certaines règles de civilité ni ne protège des attaques que s'attirent ceux qui les ignorent. L'historien interprète cet épisode à la lumière de l'invention du droit de résistance à l'autorité de pouvoirs injustes au cours de la première moitié du XVIe siècle. Cette invention, écrit-il, fut en bonne part celle de penseurs protestants, un terme qui, à partir de 1529, servit justement à désigner ceux qui entendaient protester à la Diète contre la politique de répression religieuse conduite par l'empereur Charles Quint. Lorsqu'un magistrat ou un monarque dépasse les bornes de son office ou de sa charge, on peut lui résister puisqu'il a perdu sa légitimité en se comportant comme une personne privée. Par les nombreux exemples de confusion entre ses intérêts privés et ceux de sa fonction élective, Trump a vidé celle-ci de toute substance au profit de la personne privée, de son clan, de ses intérêts économiques et judiciaires. Les penseurs, dont parle Olivier Christin, faisaient la distinction entre le tyran d'usurpation, qui s'est emparé du pouvoir par la force ou par la ruse, et le tyran d'exercice. Celui-ci peut être arrivé au pouvoir par des moyens parfaitement légitimes, mais en l'exerçant injustement, en poursuivant son profit et celui de ses courtisans, il échoue à protéger ses sujets. Le mensuel Books publie un dossier sur la tentation autocratique. Il est vrai que le club des autocrates ne cesse de s'agrandir. Pour eux, le pouvoir est l'alpha et l'oméga du gouvernement, de la présidence, de la politique et la gestion du pays n'est que la mise en scène de ce pouvoir, écrit Macha Green dans un livre non traduit, Survivre à l'autocratie. Et Harry Kunzru, qui en rend compte dans The New York Review of Books, ajoute que le problème n'est pas de surfacturer des voiturettes de golf ou d'utiliser les conférences de presse pour vendre des élixirs miracles, mais le brouillage total des frontières entre le rôle public et la vie privée du président, sa détestation des experts, la suppression de mécanismes de contrôle ou encore la réforme fiscale de Trump, un gigantesque transfert de richesse vers le haut qui était l'un des principaux desiderata de ces bailleurs de fonds. Milan Svolik, professeur de sciences politiques à Yale, a étudié les régimes autoritaires, en particulier en Russie. La force du régime, écrit-il, tient à la neutralisation des solutions de rechange, y compris par l'assassinat ou l'arrestation d'opposants, mais aussi à une propagande très habile, fondée sur la défense de la Russie traditionnelle et un nationalisme anti-occidental. Alors même que l'économie stagne, que la corruption est endémique, ou qu'un tiers des centres de soins n'ont pas l'eau courante. Mais le politiste observe que si les autocrates étaient le plus souvent renversés par des révolutions de palais et des coups d'État, ce sont aujourd'hui des révoltes populaires qui les dégagent. Viktor Yanukovych en Ukraine, Blaise Compaoré au Burkina Faso et j'en passe. C'était vrai aussi au temps des printemps arabes avec la chute de Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye, Salé au Yémen. À partir de 2010, on assiste à une forte convergence entre l'éviction due à une réaction pacifique d'une partie de l'élite dirigeante et l'éviction due à une révolte populaire. La route est encore longue avant que l'humanité jouisse d'un temps où il n'y aura plus de dictateurs, déplore Alaa Souhani dans son dernier livre « Le syndrome de la dictature » publié chez Actes Sud. Sonia Dayan-Herzbrun l'a lu pour le site En attendant Nadeau. Pour l'écrivain égyptien, la dictature constitue la relation maladive entre un chef d'État et son peuple. Il s'inspire du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie pour étayer sa thèse. Selon la critique avisée, on est loin d'avoir résolu l'énigme de ce qu'Éric Fromm puis Carlo Levi ont nommé la peur de la liberté. Elle relève aussi l'absence dans le livre du jeu des grandes puissances dont il est notoire qu'elles apportent trop souvent leur appui à certains régimes autoritaires quand leurs intérêts politiques ou économiques sont en jeu. Reste l'appel de l'écrivain à développer un scepticisme salutaire comme moyen de prévenir la dictature. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, ce que le Covid fait à la science chinoise.
Oui, puisque c'est en Chine que tout a commencé, c'est en Chine que nous ouvrons sur France Culture une journée spéciale, ce que le Covid fait à la science, toute la journée des émissions, des chroniques, des débats pour évaluer dans quelle mesure la parole des chercheurs, le pouvoir médical, la décision politique et la place des médias ont été bousculées par la crise sanitaire. Alors en Chine, le Parti communiste a d'abord fait passer avant la science le contrôle strict des informations, en arrêtant les médecins qui alertaient sur une nouvelle maladie, en déclarant à l'OMS qu'il n'y avait pas de preuve que la maladie était transmissible d'homme à homme. Mais comment les scientifiques, les laboratoires chinois, eux, se sont mis au diapason d'une pandémie? Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po. Alors qu'est-ce que le Covid a fait à la science chinoise? Est-ce qu'on sait précisément dans quelle mesure les moyens dont dispose la recherche ont été réorientées, concentrées sur le coronavirus, après avoir, dans un premier temps, séquencé et publié son génome?
Alors cette crise, la pandémie de la Covid-19, a eu l'avantage de mettre en exergue des tendances lourdes en termes scientifiques au sein de la Chine. Ce qui est très clair, c'est que la mobilisation générale décrétée à partir de la fin du mois de janvier l'a été dans tous les milieux, et évidemment dans les milieux sanitaires et scientifiques, à un moment où pour le régime il était extrêmement important de montrer qu'il était capable de protéger la population après la multiplication ces dernières années de scandales alimentaires, industriels, etc. Et surtout après ce qui s'était passé en 2003-2004, la crise du SRAS. Donc la Chine devait faire mieux et cela s'inscrit dans une montée en puissance de la Chine sur le plan scientifique et sur le plan sanitaire. On pourra par exemple mentionner le plan Healthy China 2030 qui vise justement à répondre aux besoins en soins médicaux de qualité de la population chinoise, mais aussi le dernier plan quinquennal qui faisait des biotechnologies une des cinq industries émergentes stratégiques. Donc il y a eu un investissement massif sur les questions de recherche, sur les questions sanitaires, qui ont permis d'une certaine façon de faire face à cette pandémie d'une façon bien meilleure qu'elle ne l'avait été il y a 15 ans avec le SRAS.
Alors par exemple, pour faire un tout petit point rapide et concret sur la recherche sur le coronavirus, est-ce qu'on sait aujourd'hui en Chine où on est la recherche d'un vaccin, combien sont en essai clinique, quelles molécules sont testées?
Alors il y a beaucoup de projets de vaccins en Chine, mais je pense qu'il faut mentionner les trois plus importants, celui de CanSino, celui de Sinovac et celui de Sinopharm, puisque ce sont ceux qui ont été les premiers reconnus par l'OMS comme étant en phase 3. Le vaccin de CanSino est en soi extrêmement intéressant, puisqu'il a été élaboré en partenariat avec l'Armée populaire de libération et notamment l'Académie des sciences militaires de Chine. Et les recherches ont commencé dès la fin du mois de janvier avec un premier proto-vaccin au mois de mars qui a été inoculé à certains militaires, dont la générale Chen Wei, qui est la chef de ce projet, à partir du mois de mars. Et puis, depuis le mois de juillet et août, ce sont de nombreux militaires chinois qui se font inoculer le vaccin, alors même qu'il est encore en phase 3. Et donc, il y a des autorisations en Chine pour qu'une utilisation d'urgence, entre guillemets, de ce vaccin soit faite. Et les militaires chinois sont, entre guillemets, parmi les bénéficiaires. Mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent puisque le vaccin est encore en phase 3.
C'est l'une des caractéristiques de la science chinoise. La recherche scientifique est très liée au secteur militaire. Il y a des transferts, il y a des partages d'informations et de moyens.
Effectivement, il faut bien comprendre que pendant des décennies, les sciences n'ont pas du tout été la priorité en Chine, que les questions militaires l'étaient beaucoup plus, notamment dans les années 50 et les années 60. C'est véritablement à la fin des années 70, avec l'arrivée au pouvoir de fait de Deng Xiaoping, que les sciences deviennent une des quatre modernisations clés en Chine et qu'il va y avoir un accent extrêmement fort mis sur la science.
Avec l'agriculture et l'industrie.
Exactement. Ce qui est important également, c'est qu'on comprend assez vite en Chine que le secteur militaire peut faire bénéficier au secteur civil et notamment de la recherche civile. Et puis, désormais, que le secteur civil peut faire bénéficier au secteur de la défense. Il y a donc une intégration civilo-militaire de plus en plus poussée. Pour vous donner juste un exemple, en août 2018 a été adoptée une nouvelle loi en Chine qui permet aux laboratoires nationaux clés, qu'ils soient civils ou militaires, de partager leurs données, c'est-à-dire leur équipe de recherche, leur équipement, mais aussi leur pool, très concrètement, de données. Et ça pose des questions pour nous, notamment lorsque l'on fait de la coopération avec des instituts qui sont civils, mais qui potentiellement pourraient transférer une partie de ces données à des instituts militaires.
Parce qu'il y a beaucoup de publications ou de recherches qui sont copubliées avec des chercheurs partenaires à l'étranger, mais jusqu'où un contrôle du parti communiste? On a dit que la science chinoise était très liée au secteur militaire, jusqu'où est-elle liée au parti communiste chinois et avec quelles conséquences sur le contrôle, notamment des publications, puisqu'on n'arrête pas de dire que la Chine, depuis 2 ans, a dépassé ou dépasse presque les États-Unis en termes de publications scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, la recherche est évidemment intimement liée au parti communiste. Et ce qu'on voit beaucoup en Chine, c'est entre guillemets un technonationalisme. C'est l'utilisation des sciences et des technologies à des fins politiques et notamment pour alimenter le nationalisme. On a par exemple la mise en avant des grands projets scientifiques, des grands chercheurs, des cérémonies de remise de prix, des principaux chercheurs chinois. Et cela, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment ces dernières années et sur lequel Xi Jinping a vraiment très fortement insisté. La question qui se pose plus largement, c'est est-ce qu'il peut y avoir de l'innovation dans un régime autoritaire dans lequel, de fait, la liberté de parole et la liberté d'expression est contrôlée? Et ça, c'est une question à laquelle, entre guillemets, devra répondre la Chine dans les décennies à venir. Ce qui est très important de la Chine, c'est d'être capable également d'attirer les talents du monde entier. Il y a depuis une petite dizaine d'années un grand programme d'attraction pour attirer les talents, qu'on appelle le programme 1000 talents, qui vise à attirer des talents de toutes sortes, des jeunes, des plus âgés, pour le court terme, pour le long terme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la Chine, c'est de multiplier ces coopérations internationales, puisque les scientifiques chinois ont bien conscience que c'est clé pour améliorer la recherche en Chine.
Et de former aussi les jeunes chinois. Il y a un grand effort qui a été mis sur la formation des futurs scientifiques.
Exactement, l'enseignement supérieur en Chine a bénéficié massivement d'investissements ces dernières décennies. Et il faut bien réaliser que la Chine partait d'extrêmement loin, puisque au début des années 50, le système d'enseignement supérieur est quasiment inexistant, contrairement à l'URSS par exemple, à la même période, qu'il a fallu construire tout cela. Et ça, c'est véritablement dans les années, la fin des années 70 et des années 80, que des investissements massifs dans les universités, des partenariats internationaux et autres, permettent à certaines universités chinoises aujourd'hui, comme l'université par exemple Tsinghua ou l'université de Pékin, de prétendre à avoir un rang international.
Et de quelle manière ces programmes sont encadrés pour éviter ce que beaucoup redoutent, l'espionnage, la captation de technologies? Dès le début de la crise sanitaire, les États-Unis ont très vite accusé la Chine de piratage autour de la recherche de traitements et de vaccins. Qu'est-ce qui est mis en place?
Alors, ça a été le cas également de la part de l'Union européenne qui, dès le mois de juin, a indiqué aux autorités chinoises qu'elles s'inquiétaient et qu'elles étaient extrêmement préoccupées par des tentatives d'espionnage, sans mentionner la Chine, mais en le faisant lors d'un sommet avec la Chine. Ce qui est très clair, c'est que de plus en plus aux États-Unis, au Canada, en Australie et puis petit à petit en Europe, se pose la question de cette coopération avec la Chine, alors que de nombreuses technologies ont été captées de fait par les autorités chinoises à travers de l'espionnage, mais aussi plus largement, il faut être très honnête, des transferts de technologies ou des coopérations scientifiques. Alors les mesures de restriction se multiplient. Par exemple, les fonctionnaires du département de l'énergie aujourd'hui aux États-Unis n'ont plus le droit de faire de coopération scientifique avec la Chine. Et puis, ces restrictions se multiplient. Ça, c'est un grand enjeu, puisqu'on a beaucoup parlé de la trade war entre les États-Unis et la Chine, mais c'est surtout les tech wars aujourd'hui qui sont extrêmement importants.
Antoine Bondaz, le cadre éthique des scientifiques chinois, il n'est pas exactement le même que le nôtre. On se rappelle en 2018 l'annonce par un chercheur chinois qu'il avait donné naissance à deux petites filles génétiquement modifiées. Quelles sont les limites que s'impose la science chinoise, puisqu'elles ne sont pas d'ordre religieux ? En l'occurrence,
je dirais qu'il y a beaucoup moins de limites et que la finalité de la recherche est peut-être plus importante. Alors après, il faut quand même relativiser. La position de certains chercheurs chinois ne reflète pas l'ensemble de la communauté scientifique chinoise. Beaucoup de chercheurs chinois ont de fait un cadre éthique et considèrent qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La question plus large, c'est la volonté pour la Chine, le plus rapidement possible, de repousser, entre guillemets, les frontières technologiques, d'être capable d'être un pays extrêmement innovant. Et ça, c'est notamment l'objet d'un grand plan d'innovation chinois qui vise à faire de la Chine d'ici 2049. Ce n'est pas un hasard, ce sera le 100e anniversaire de la proclamation de la République, la grande puissance d'innovation aujourd'hui, de grande puissance d'innovation dans le monde. Mais ça, pour l'instant, on en est encore assez loin.
Avec quand même, on en est loin, mais ce saut incroyable que la Chine a effectué en 50 ans, en un demi-siècle, mais de manière encore plus forte ces 20 dernières années, c'est quand même assez fascinant cette façon dont le technonationalisme dont vous parliez, Antoine Bondaz, a permis à la République populaire de Chine de devenir donc la deuxième puissance scientifique au monde. Pourquoi ces programmes n'ont pas fait les frais à l'époque de la révolution culturelle ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu un traumatisme au 19e siècle en Chine, l'idée que le retard technologique de l'Empire chinois a expliqué non seulement la supériorité occidentale, mais l'humiliation qu'ont causé les Occidentaux sur la Chine. Il faut se rappeler qu'en 1868, par exemple, lorsque le magazine Nature est créé, c'est la première fois qu'un livre scientifique occidental est traduit en Chine. Cependant, la prise de conscience, elle est bien tardive, puisque avec la République populaire de Chine dans les années 50-60, la priorité n'est pas à la science, à part quelques programmes d'armement, notamment le programme de dissuasion chinois. C'est véritablement donc à la fin des années 70 et notamment en 1986 que tout cela va évoluer et que la science va devenir une priorité.
Merci beaucoup Antoine Bondaz d'avoir été avec nous, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'être venu ouvrir cette journée spéciale sur France Culture, ce que le Covid fait à la science et qui se poursuit dans un instant. Bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Info, intox ou buzz, il est temps d'y voir clair. Nicolas Martin.
Les masques servent-ils à quoi que ce soit contre le Covid ? Est-il vrai que plusieurs souches du virus circulent ? Mais parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie, est-ce que le tout répressif contre les drogues est efficace ? Le mouvement QAnon est-il un mouvement populaire ? Et la 5G est-elle un complot de Bill Gates pour nous implanter des puces dans le cerveau ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais souvent des mauvaises réponses, essayons ensemble d'avoir les idées claires.
Les idées claires, une vidéo, un podcast, le mercredi sur franceculture.fr.
France Culture présente les rendez-vous de l'histoire de Blois. Historiens, scientifiques, économistes, réalisateurs et écrivains se réunissent autour du thème « Gouverner ». Débats, conférences, entretiens et expositions, un lieu de rencontre unique avec ceux qui écrivent et commentent l'histoire. À partir du vendredi 9 octobre, assistez aux émissions et masterclass de France Culture en public dans l'auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire. Entrée libre. Les 23e rendez-vous de l'histoire de Blois du 7 au 11 octobre. Un partenariat France Culture avec la Croix l'Hebdo.
6h57, vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour, Guillaume. Didier Raoult, est-il vraiment Charlie ?
Oui, ça c'est pour le réveil des trolls, parce que ce que je cherche, c'est ce qui les réveille. Vous savez, les haters, les haineux.
Bonjour.
Et partant, ce qui les laisse impassibles aussi, Julie. Parce que depuis quelques semaines, je me suis lancé dans une petite expérience de psychologie sociale. J'essaye, vous savez, de trouver l'humeur neutre, le billet, la chronique de 6h57.
fête qui ne réveillera aucun troll, qui ne provoquera aucune réaction haineuse. Et pour l'instant, je dois vous le dire, j'ai complètement échoué. Au début, j'avais commis une vraie bourde, j'avais consacré un billet au biais de confirmation, un mécanisme sociologique pour tenter d'éclairer les morts inexpliquées de chevaux, pas toutes les morts, mais une partie d'entre elles seulement, celle qui avait été jugée naturelle par un enquêteur. Pas de bol, ça a été perçu comme une insulte pour les amoureux des chevaux, alors même que j'en suis, je leur réitère mes excuses, alors je me suis dit que j'allais faire du consensuel. Vous savez, un gentil papier pour me reposer sur le vélo, c'est sympa le vélo, Julie, à bicyclette, devant Paulette, etc. Caramba, encore raté. Les trolls étaient là qui me reprochèrent ma coupable incompréhension des pédales de vélo de course. Et c'est à ce moment-là qu'a ressurgi, pour une raison que j'ignore absolument, une humeur que j'avais consacrée jadis au chou-quel. C'est sympa le chou-quel, ou pas d'ailleurs, c'est ce que vous voulez, mais a priori on aurait tendance à penser que l'on peut mourir pour des idées, se battre pour la droite, la gauche, ce que vous voudrez, les radicaux valoisiens, mais pas pour un légume. Eh ben on avait tort. Déluge de protestations des amoureux du chou-quel, comme s'il y avait un sacré pour les légumes. Alors voilà mon hypothèse, le troll anonyme, c'est un peu une tautologie puisque le troll est toujours anonyme. Le trollage est ce que le philosophe Ian Hacking appelait une maladie mentale transitoire. Hacking a analysé des troubles qui naissent, vous savez, à une époque et disparaissent à d'autres. Les vertiges, les hallucinations, les hystéries. Et à mon sens, cette haine-là, portée par les réseaux sociaux en général, mais surtout par Twitter quand même, est très précisément une maladie mentale transitoire. Dans quelques années, elle disparaîtra et alors, comme certains sont devenus dingues en prenant du LSD, une partie de nos contemporains se demanderont comment et pourquoi ils avaient réussi à se perdre en leur temps sur Twitter.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Ce que le Covid fait à la science, c'est une journée spéciale que France Culture consacre à la science et à l'impact du Covid sur elle. Nous recevrons dans quelques instants Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle, et Marilène Patou-Matisse, préhistorienne. 7h sur France Culture, excellent réveil à tous, y compris aux trolls.